La semaine dernière, nous avons vu comment la poésie de Paul Celan se rassemblait dans le geste de ce qu'il nomme, dans le méridien, une contre-parole. Cette contre-parole consiste non seulement à renverser les usages reçus de la poésie allemande, mais encore à les retourner contre eux-mêmes, de manière à permettre une réappropriation juive de la langue par laquelle les millions de juifs ont été assassinés. La contradiction, autrement dit, ne porte pas seulement sur le fait, ou, si l'on préfère, sur le rappel de la Shoah, mais encore sur la responsabilité de la langue, et même de la poésie allemande dans le mécanisme de la Shoah. Simultanément, cette contradiction affecte le cadre de compréhension de ce qui s'est passé, et notamment, nous l'avons vu, les présupposés métaphysiques qui ont servi à le penser. Cette dimension de contre-parole n'est pas partielle ou intermittente. Elle est constitutive de son œuvre. Tout poème de Paul Celan relève de la contre-parole. Mais si elle est permanente, cette dimension n'en est pas pour autant seule à l'œuvre. Il y a dans ses poèmes aussi autre chose que ce geste de réponse ou de défi. Comme tout art, l'art poétique celanien se comprend moins à partir d'un principe unique qu'à partir d'une tension entre des principes dont l'opposition est féconde. Cet autre principe, qui forme une polarité avec celui de la contre-parole, même s'il semble parfois se confondre avec lui, je le vois dans l'adresse au « doux », au « tu » ou au « toi ». Et c'est à lui que je voudrais m'intéresser aujourd'hui. Mon point de départ sera un poème écrit à 22 ou 23 ans, soit au camp de Radazzani en Moldavie, camp de travaux forcés où il est interné, soit à Tchernovitch lors de son retour de ce camp. On ne sait pas exactement les indications de date que Celan lui-même a apportées au début des années 1960 dans l'exemplaire manuscrit des poèmes de jeunesse sont tout accompagnés de points d'interrogation. Ce qu'il importe de savoir, c'est qu'au moment où il écrit ce poème, Paul Celan est séparé de ses parents qui ont été déportés à Mikhailovka en Ukraine. Il a appris la mort de son père, terriblement affaibli et emporté par le typhus, mais peut croire sa mère encore en vie. À tout le moins, et c'est ma raison pour partir de ce texte, le poème imagine-t-il cette mère, lui ayant écrit une lettre des coteaux de l'Ukraine, aus ukrainischen Halden. Voici donc Schwarze Flocken, flocons noirs. Schnee ist gefallen, lichtlos. Ein Mond ist es schon oder zwei, dass der Herbst unter mönchischer Kutte Botschaft brachte, auch mir, ein Blatt aus ukrainischen Halten. Denk, dass es wintert auch hier, zum tausendsten Mal nun im Land, wo der breiteste Strom fließt, Jakobs himmlisches Blut, benedeiert von Äxten. O Eis von unirdischer Röte, es warte ihr Hetman mit allem Tross in die finsternden Sonnen. Kind, ach, ein Tuch, mich zu hüllen darein, wenn es blinket von Helmen, wenn die Scholle die rosige Birst, wenn Schnee ich stäubt das Gebein deines Vaters, unter den Hufen zerknirscht das Lied von der Zeder. Ein Tuch, ein Tüchlein, nur schmal, das ich wahre, nun dazu weinen du lernst, mir zur Seite die Enge der Welt, die nie grünt, mein Kind, deinem Kinde. Blutete Mutter, der Herbst mir hinweg, brannte der Schnee mich, suchte ich mein Herz, dass es weine, fand ich den Hauch, ach, des Sommers, war er wie du. Kam mir die Träne, webt ich das Tüchlein. De la neige est tombée, sans lumière, voici une lune ou deux, que l'automne, sous son froc de moine, m'a fait tenir un message, une feuille, des coteaux de l'Ukraine. Pense qu'ici aussi, c'est l'hiver, pour la millième fois, dans le pays où coule le plus large des fleuves, le sang céleste de Jacob béni par les haches. Ô glace d'une rougeur non terrestre, son bourreau patauge avec toute sa troupe dans les soleils assombrissants, enfant, ah, un drap pour m'y envelopper quand les casques étincellent, quand éclate la motte rose, quand les ossements de ton père jaillissent en neige et que le chant du cèdre crisse sous les sabots. Un drap, un petit drap mince que je garde à mon côté maintenant que tu apprends à pleurer, mon enfant, l'étroitesse du monde qui jamais ne verdira pour ton enfant. S'écoula pour moi le sang de l'automne, mère, me brûla la neige, cherchant mon cœur pour qu'il pleure, c'est, hélas, le souffle de l'été que je trouvais, le souffle qui était comme toi, me vint la larme, je tissais le petit drap. Le lecteur familier de la première poésie de Paul Celan n'a pas de peine à reconnaître dans ce poème si poignant un bon nombre des éléments définitoires de ces premiers recueils, et cela sur le plan lexical, comme sur celui du rythme, sur celui de la syntaxe, comme sur celui de la prosodie. Toutefois, ce texte met aussi en scène un phénomène discursif très rare, celui par lequel il rapporte, dans sa partie centrale, un discours direct auquel il rapporte, pardon, les lignes de la lettre imaginaire de cette mère qui s'adresse à lui dans un discours direct auquel il répondra lui aussi directement dans les quatre derniers vers. La mère lui demande un drap, un tour. Ce pourrait être aussi un linceul, un Leichentuch, dans lequel elle puisse s'envelopper pour échapper à la fureur des casques et de la violence qui fait crépiter la terre et jaillir en neige les ossements de son mari, tandis que Chris, sous les sabots des chevaux de la mort, le chant du cèdre, chant du pays des Juifs. Ce drap que la mère demande pour se couvrir, ce drap né de ses larmes, le poète le tissera. Sa parole sera ce linceul. C'est en ce sens que Celan pourra dire plus tard que sa mère n'a pas d'autre tombeau que sa Todesfug, sa fugue de la mort. Car si le petit drap, si le Tüchlein est le poème, nous comprenons aussi que la nature du tissu de ce drap est et ne peut être que verbale. La consolation a à se faire dans la langue du meurtre. La poésie pour Celan est toujours aussi une commémoration des morts. Mais c'est moins cet aspect qui m'importe ici que le fait même de la disposition discursive du texte. La lettre contenue dans le poème est une lettre imaginaire. Elle n'en est que plus révélatrice. Ce qu'elle révèle, c'est que le poète se sent interpellé. Si le petit drap, le Tüchlein, qu'il tisse au dernier vers et le poème lui-même, c'est donc, à travers lui, La poésie de Célanienne tout entière, qui naît d'une réponse, ou comme réponse. Réponse à la demande de protection à elle adressée par la mère. Or, ceci a une incidence majeure, me semble-t-il, sur à la fois la poésie et sur le poète. L'incidence sur la poésie, nous l'avons vu, va faire de celle-ci une contre-parole. L'incidence sur le poème, sur le poète, est multiple. L'une, la plus facile à discerner, va être de l'investir d'une responsabilité qui n'ira pas sans un profond sentiment de culpabilité. La seconde va être de le vouer à l'autre. La troisième, qui découle de la seconde, va être de rendre ce fait d'être voué à l'autre problématique du fait de l'anéantissement de cet autre. Prenons ces conséquences dans l'ordre. Parmi les premiers poèmes de Mohn und Gedächtnis, Pavot et Mémoire, on trouve celui-ci. Die Hand voller Stunden, so kamst du zu mir. Ich sprach, dein Haar ist nicht braun. So hobst du es leicht auf die Waage des Leids. Da war es schwerer als ich. Sie kommen auf Schiffen zu dir und laden es auf. Sie bieten es feil auf den Märkten der Lust. Du lächelst zu mir aus der Tiefe. Ich weine zu dir aus der Schale, die leicht bleibt. Ich weine, dein Haar ist nicht braun. Sie bieten das Wasser der See und du gibst ihnen Locken. Du flüsterst. Sie füllen die Welt schon mit mir und ich bleib dir ein Hohlweg im Herzen. Du sagst, leg das Blattwerk der Jahre zu dir. Es ist Zeit, dass du kommst und mich küssest. Das Blattwerk der Jahre ist braun. Dein Haar ist es nicht. La main pleine d'heures. Ainsi vins-tu à moi, je dis, tes chevelures n'est pas brune. Aussi la posais-tu d'un coup sur les plateaux de la douleur, elle y était plus lourde que moi. Ils viennent à toi sur des navires et la chargent à bord, ils la soldent au marché du plaisir. Tu me souris de la profondeur, je pleure vers toi depuis la balance qui reste légère, je pleure. Tes chevelures n'est pas brune. Ils versent l'eau à la mer et tu leur offres tes boucles. Tu murmures, ils emplissent de moi le monde entier. Et je reste un chemin creux dans ton cœur. Tu dis, dépose la frondaison des années. Il est temps que tu viennes et m'embrasse. La frondaison des années est brune. Ta chevelure ne l'est pas. Le poème rapporte un dialogue. La particularité de ce dialogue est qu'il est mené avec une interlocutrice qui est morte. La femme qui vient à lui, la main pleine d'heures, vient de la mort. Sa chevelure pèse à elle seule plus que lui, car c'est la chevelure d'une victime. Sur les plateaux de la balance de douleur, c'est elle qui l'emporte, à la fois en poids de souffrance et en résilience, puisque bien que morte, elle continue à parler d'amour à celui qu'elle aime et à lui demander de l'embrasser. Entre le « je » et le « tu » se tient entière le monde, représenté par le pronom de la troisième personne du pluriel, « sie », « il ». Ce tiers est celui des bourreaux, ceux qui ont fait que la chevelure de la femme n'est pas brune, comme elle devrait être, mais sans doute de cendre. Le « je » participe de cette anomalie, dans la mesure où sa constatation initiale, « ta chevelure n'est pas brune », semble relever du reproche. Le poème devient donc le lieu où le poète se représente en défaut, si l'on peut dire, par rapport à son interlocutrice, qu'il est pourtant seul à pouvoir faire survivre. Sa responsabilité devient inséparable d'une culpabilité, qui est à la fois celle du survivant et celle de celui qui manque d'amour. Le vers final, prenant à nouveau la forme d'un constat, recourbe le poème sur une structure circulaire dans laquelle on peut voir la réitération et de la mort de l'interlocutrice et de la séparation des interlocuteurs. L'identité de la femme à laquelle le poète s'adresse, sa mère ou une femme aimée, devient secondaire par rapport au type de rapport qui les unit. Lui reste seul à compter les amendes, pour reprendre l'image du poème que nous avons évoqué la semaine dernière. Ce n'est pas tout. Ou du moins, le manque d'amour que le poète semble ici se reprocher n'est-il pas seule cause de son sentiment de culpabilité? Il y a plus grave, du moins du point de vue de la poésie. Un poème du deuxième recueil va nous le montrer. Je vous en lis la première et la dernière strophe. Welchen der Steine du hebst, welchen der Steine du hebst, du entblößt, die des Schutzes der Steine bedürfen. Nackt erneuen sie nun die Verflechtung. Welches der Worte du sprichst, du dankst dem Verderben. Quelque pierre que tu soulèves, quelque pierre que tu soulèves, tu dénudes ceux qui ont besoin de la protection des pierres. Nu, ils renouvellent à présent l'entrelac. Quelques mots que tu prononces, tu remercies la perdition. Le poème marque un dialogue intérieur entre le poète et lui-même, ou si l'on préfère, entre le jeu comme témoin et le jeu comme écrivain. Le premier s'adresse au deuxième pour lui faire remarquer la conséquence de son action. Les pierres qu'il soulève, pierres de mémoire ayant fonction de pierres tombales, dénudent ceux qui sont ensevelis dessous et qui ont besoin de la protection de ces pierres. On retrouve ici, comme vous le voyez, la pensée du poème « Flocon noir » dans lequel la mère lui demandait un drap pour se couvrir. L'image a pourtant quelque chose de trompeur. En effet, le propre des Juifs exterminés dans les camps est qu'ils ne sont pas ensevelis, qu'ils n'ont pas de pierre tombale. Le poème précédent le disait d'ailleurs, avec la discrétion qui caractérise la plainte tselanienne. Sie füllen die Welt schon mit mir. Ils emplissent de moi le monde. Elle, comme toutes les autres victimes, est partie en fumée, cette fumée qui, désormais, remplit le monde. De la Todesfuge jusqu'au poème de la Niemandsrose et au-delà, la Wandergestalt des Gefühls, la figure errante du sentiment, ne cessera d'habiter ces terres. Le dernier poème de la Niemandsrose le réaffirmera d'ailleurs avec force. In der Luft, da bleibt deine Wurzel, in der Luft. Dans l'air, c'est là que demeure ta racine, dans l'air. Les pierres dont il est question dans ce poème ne peuvent donc être des pierres. La symétrie des constructions syntaxiques entre la première et la dernière strophe nous aide à mieux comprendre. Les pierres sont les poèmes. Les pierres soulevées sont les poèmes consacrés aux morts. Loin de servir de drap à ceux-ci, comme dans Schwarz et Flocken, ils les dénudent. La raison de cet apparent paradoxe est livrée dans les trois derniers vers. Quelques mots que le poète prononce, ce sera un mot allemand. À ce titre, il sera inévitablement complice de la langue qui a causé das Verderben, mot qu'on peut traduire par la perdition ou la corruption. Si obstinée que soit sa volonté de contre-parole, la poésie doit compter avec la contamination de la langue dont elle se sert. Un autre poème de cette même section de Von Schwelle zu Schwelle, nächtlich geschürzt, s'achève ainsi. Ein Wort, du weißt, eine Leiche. Lass uns sie waschen, lass uns sie kämmen, lass uns ihr Auge himmelswärts wenden. Un mot, tu le sais, un cadavre. Allons le laver, allons le peigner, allons tourner son œil vers le ciel. Que les mots soient des cadavres fait donc du poète le préposé à la toilette des morts. Cette toilette est indispensable à la survie de la poésie. On notera qu'elle est à la fois un acte de piété, le rituel judaïque de la toilette des morts est très précis, et sans doute un acte de défi, sinon de rétorsion. Au lieu de fermer l'œil du défunt, le poète s'exhorte à le tourner vers le ciel, dans ce que je ne puis considérer pour ma part que comme un geste accusateur de ce ciel coupable de ne pas être intervenu. Il y a donc, comme vous le voyez, une ambivalence ou un rapport contradictoire du poète au langage. D'un côté, le sentiment d'une contamination qui prend l'allure d'un reproche qu'il s'adresse, « du Angst, dem Verderben ». De l'autre, le besoin d'un acte de purification qui s'accompagne d'une accusation. Les morts ont besoin des pierres tombales que sont les poèmes, mais ceux-ci échouent à remplir leur fonction. Le poète n'a pas d'autre langue que celle de ceux qui ont causé la perdition. La poésie est placée sous le signe du paradoxe. Que ce paradoxe affecte aussi bien la relation du « ich » au « du », du « je » au « tu » n'a donc rien d'étonnant. On en verra l'illustration peut-être la plus éloquente dans un poème de Mohn und Gedächtnis qui s'achève sur une image dont j'entends encore très clairement André Dubouchet me dire qu'elle formait pour lui la limite absolue de ce que la poésie pouvait se permettre. L'aube der Ferne. Im Quell deiner Augen leben die Garne der Fischer der Irrsee. Im Quell deiner Augen hält das Meer sein Versprechen. Hier werf ich ein Herz, das Gewalt unter Menschen, die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures. Schwärzer im Schwarz bin ich nackter. Abtrünnig erst bin ich treu. Ich bin du, wenn ich ich bin. Im Quell deiner Augen treibe ich und träume von Raum. Ein Garn fing ein Garn ein, wir scheiden umschlungen. Im Quell deiner Augen erwürgt ein Gehängter den Strang. Éloge du lointain. À la source de tes yeux vivent les pêcheurs de la mer d'errance. À la source de tes yeux, la mer tient sa promesse. Ici, je jette, cœur ayant séjourné parmi les hommes, mes habits loin de moi et l'éclat d'un serment. Plus noir dans le noir, je suis plus nu. Ce n'est qu'aposta que je suis fidèle. Je suis toi quand je suis moi. À la source de tes yeux, je dérive et je rêve de rapt. Un filet prit un filet. Nous nous quittons sans lacets. À la source de tes yeux, un pendu étrangle sa corde. Tout dans ce poème, qui appartient au genre du poème d'amour, est placé sous le signe du renversement. On peut penser que celui-ci est dû au fait que l'interlocutrice du texte est morte. Si tel est bien le cas, le poème devient le lieu paradoxal par lequel le poète advient à soi en s'identifiant à son aimé. Que cette identification mène à la révolte, ou ce que nous avons commenté sous la notion de contre-parole, le dernier distique le prouve. Entrant dans la mort comme un second Orphée, le « je » parvient à retourner la perte qu'il a subie en rébellion contre le principe qu'il a tué. C'est le pendu qui étrangle sa corde. La logique paradoxale triomphe en triomphant de la séparation. Un filet prit un filet. Nous nous quittons enlacés. Mais c'est évidemment, dans la perspective qui est la nôtre, le dixième vers qui est le vers central. « Ich bin du, wenn ich ich bin. » Je suis toi, quand je suis moi. On peut essayer de comprendre un tel vers selon plusieurs perspectives. C'est d'abord un vers qui semble s'inscrire en droite ligne dans la pensée de ce Martin Buber, auquel le discours de Brehm rend un hommage direct. C'est aussi un vers qui varie, à sa façon, un passage du traité du Talmud, Pirkei Avot, commenté par Rabbi Hillel, et qu'Emmanuel Levinas aimait à citer. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Mais si je ne suis que pour moi, suis-je encore moi? C'est surtout, me semble-t-il, l'expression et de la solidarité et de l'identité paradoxale entre le poète et la femme qui n'aime et qui n'est plus. Le « ich » a intégré le « doux ». Il a, en d'autres termes, intérioriser sa mort, au point qu'elle n'est plus distincte de lui et que lui n'est plus distinct de la mort. Un autre poème de la même section de Mon und Gedächtnis, intitulé Erinnerung an Frankreich, Souvenir de France, s'achève ainsi par le vers Wir waren tot und konnten atmen. Nous étions morts et pouvions respirer. Pour autant, une telle solidarité ne va pas sans difficulté. L'anéantissement que le toi a subi, outre la charge de mélancolie qu'il entraîne chez le survivant, affecte l'identité de celui-ci, identité qui, du coup, se trouve menacée dans son intégrité. La conscience poétique de soi se découvre elle aussi marquée par ce néant qui poussera Tselan à écrire dans Psaume, le poème dont un vers donne son titre à la Niemandsrose, « Ein nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend, die nichts, die Niemandsrose. Un rien étions-nous, sommes-nous, resterons-nous, fleurissants, la rose de rien, la rose de personne. » Sans doute, ceux qui parlent ici, dans ces vers, sont-ils les morts de Treblinka et d'Auschwitz et d'ailleurs. Mais celui qui parle pour eux, ou plutôt qui leur prête une parole, ou en l'occurrence un psaume, qu'ils ne sont plus en mesure de proférer eux-mêmes, n'échappe pas à la néantisation de la rose dont ils participent. Si, comme le dit Buber, il n'y a pas de « ich », il n'y a pas de « je », qui ne présuppose le « doux », le « tu » devant qui et avec qui il se pose, la destruction de ce « tu » réagit nécessairement sur lui. On voit bien, du reste, comment les instances subjectives ou pronominales sont solidaires dans le poème liminaire de la Niemandsrose, « Es war Erde in ihnen », il y avait de la terre en eux, et ils creusaient. Les trois premières strophes de ce poème, alignés sur le syntagme « sie gruben », ils creusaient, décrivent une action dans laquelle il n'est pas difficile de reconnaître la métaphore de ceux qui, sous contrainte, creusent une tombe sans que leur Dieu semble objecter à leur destin. Dans la quatrième strophe, le « je » s'adjoint au « il » dans ce qui ressemble à une conjugaison du verbe creuser « ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm ». « Je creuse, tu creuses, et le ver creuse aussi. » Or, Parvenu à ce point, le texte marque une sorte de pause réflexive à travers le vers suivant. O einer, o keiner, o niemand, o du, o l'un, o pas un, o personne, o toi. C'est le mouvement du vers qui me paraît signifiant. Le mouvement qui, partant du einer, de l'un, qui peut être aussi bien le ich, le je, ne parvient au toi, au du, qu'en passant par la double négation du keiner et du niemand, du pas un et du personne. Le fait que ce du ne soit accessible qu'au terme d'une traversée du négatif rétroagit sur le ich, sur le moi, avec lequel il se hisse pour finir, à la hauteur d'un couple qu'on peut penser marié à la fois dans la mort et au-delà de la mort. Voici la dernière strophe qui, vous le noterez, est faite de vers rimés. O einer, o keiner, o niemand, o du, wohin ging's, das nirgendhin ging, o du gräbst, und ich grab, und ich grab mich dir zu, und am Finger erwacht uns der Ring. O l'un, ô pas un, ô personne, ô toi, où cela allait-il, qui n'allait nulle part? Ô, tu creuses, et je me creuse vers toi, et au doigt, l'anneau s'éveille à nous pour sa part. Le mouvement du je vers le toi est un mouvement d'amour, un amour que sanctionne symboliquement l'éveil de l'anneau à leur doigt. Plus que l'amour lui-même, c'est le mouvement qui conduit à travers lui toutefois, qui est révélateur. L'éveil de l'anneau scellant la réalité du couple ne s'opère qu'au terme de cette action de creuser par laquelle les partenaires s'identifient l'un à l'autre dans une mort devenue anonyme. Parvenu à ce point, il est temps de revenir à l'aube de la ferne, éloge du lointain, pour évoquer une autre possibilité d'interprétation. Comme nous le savons depuis quelque temps, l'aube de la ferne fait partie des poèmes auxquels, dans l'exemplaire de Mon und Gedächtnis qu'il remit à Ingeborg Bachmann en décembre 1957, Celan ajouta les deux lettres FD, abréviation de Für dich, pour toi. Comme la liste des 23 poèmes en question contient des textes qui sont indiscutablement écrits pour elle, Ingeborg Bachmann, et notamment le poème In Ägypten, en Égypte, dont le manuscrit ouvre leur correspondance le 24 juin 1948 déjà, l'interprète de Celan peut être tenté de reconnaître dans le doux de cet éloge du lointain le toi d'Ingeborg. Loin d'être morte, d'être une juive morte, l'interlocutrice serait cette jeune femme autrichienne de 6 ans, plus jeune que lui, qui fut non seulement l'une des femmes qu'il aima le plus intensément, mais la poétesse avec laquelle il entretint le dialogue le plus crucial sur le plan de sa création poétique. On doit ajouter que la réciproque n'est pas moins vraie et que Paul Celan fut sans doute l'homme le plus aimé, ou du moins le plus important pour la création de la romancière et poétesse autrichienne. Faut-il donc réviser ce que nous avons suggéré et reconnaître au contraire dans l'aube de la ferne un poème d'amour plus traditionnel? Je ne le crois pas. Et le fait même qu'on puisse maintenir la possibilité des deux lectures est ce qui doit nous orienter. À supposer même que le FD ait pour sens qu'au moment même de leur composition, l'auteur de ces 23 poèmes ait eu Ingeborg à l'esprit, ce qui n'est pas prouvé, car rien n'empêche, après tout, un poète de dédier rétrospectivement à une femme des années plus tard des textes écrits à l'origine pour quelqu'un d'autre ou en pensant à quelqu'un d'autre. Le fait que ces poèmes présentent dans leur forme la même structure paradoxale que nous avons vue à l'œuvre dans des poèmes dont l'interlocutrice était sans conteste une femme morte, doit nous faire comprendre à quel point l'expérience de cette mort a été fondatrice et pour la poésie et pour la représentation que Tselan pouvait se faire de toute relation amoureuse. D'une part, on peut relever que le lointain, la ferne, évoqué et célébré par le titre, peut s'appliquer aussi bien à la distance qui sépare deux amants que à celle qui sépare un Orphée d'une Eurydice. Il en va de même de l'affirmation du vers 14, « Wir scheiden umschlungen »,« Nous nous quittons, nous nous séparons, enlacés », ainsi que ce que j'ai défini comme l'assertion centrale, « Ich bin du, wenn ich ich bin »,« Je suis toi quand je suis moi ». Les différences qu'entraîne la possibilité de reconnaître Ingeborg Bachmann dans le Du me paraissent les suivantes. D'une part, se précise l'apostasie du vers 9. Ce n'est qu'apostat que je suis fidèle. L'apostasie se rapporterait au fait qu'Ingeborg n'étant pas juive, l'amour qu'un juif lui porte risquerait d'être qualifié d'apostat. Sauf que la dénonciation se renverse en ce que c'est en aimant Ingeborg que Paul resterait fidèle à ses chères mortes. Pourquoi cela ? Parce qu'il lui a demandé, dans le poème In Egypten, en Égypte, de devenir leur substitut, ou du moins leur répondant. Répondant paradoxal, parce qu'elle appartient par naissance au camp des ennemis. Le père d'Ingeborg était inscrit au parti nazi autrichien, mais qui permet au poète précisément de rêver de Rat, c'est-à-dire de rêver, de la ravir à son identité première, pour faire d'elle une sorte de juive d'élection. Comme la correspondance l'atteste, Tselan n'agira pas différemment avec celle qui deviendra sa femme, Gisèle de Lestrange. Du coup, le dernier vers indiquerait-il le triomphe de la victime sur le bourreau, c'est-à-dire le triomphe que le jeu poétique peut ressentir d'avoir, par le rapt amoureux de la jeune femme, renversé le cours de l'histoire. Comme on le voit, ce qui ressort de cette autre interprétation, c'est à quel point elle s'inscrit, elle aussi, dans la logique poétique que nous avons dégagée. On le comprendra d'autant mieux, j'espère, en retrouvant un mouvement de ce type dans un texte qui a la particularité d'être le seul texte de prose narrative que Tselan ait jamais publié, « Gespräch im Gebirg »,« Entretien dans la montagne ». Écrit durant l'été qui précède la rédaction du Méridien, soit l'été de 1959, et paru au printemps 1960 dans la Neue Rundschau, ce texte est né à la suite d'un rendez-vous manqué avec Theodor Adorno, rendez-vous qu'avait organisé Peter Sondy. Prévu début juillet à Sils Maria, la rencontre n'aura pas lieu, les Tselan étant rentrés plus tôt que prévu à Paris, sans doute du fait d'une maladie de leur fils. Le fait que ce court récit soit relatif à une rencontre prévue avec Adorno n'est pas tout à fait indifférent. Adorno est celui qui avait déclaré, avec l'autorité de sa notoriété de philosophe juif, qu'écrire de la poésie après Auschwitz était participer encore de la barbarie. Après avoir lu Tselan, Adorno nuancera sa propre affirmation et adoptera la variante qu'en proposera Sondy, que la seule poésie possible après Auschwitz est une poésie née à Auschwitz. Gespräch im Gebirg a lui aussi une dimension de contre-parole. Comme il le signale lui-même à Adorno en lui envoyant la Neue Rundschau en mai 1960, c'est, je cite Tselan, et déjà dans le titre, du Judendeutsch, de l'allemand juif. C'est, et vient maintenant une phrase en français, assumons donc ce que l'on nous prête, quelque chose de tout à fait nécrochu, grâce auquel le tiers, et peut-être aussi ce qui est sans voix, pourra peut-être se redresser. Tselan redira souvent qu'il y avait volontairement imité une syntaxe allemande propre aux Juifs parlant le Yiddish, pour montrer aux Allemands ce dont une telle syntaxe ou une telle diction était capable. Si présente soit-elle, cette dimension n'est toutefois pas l'essentiel. Et ma raison pour commenter ce texte est qu'il illustre, de la façon la plus claire, la manière dont le fait d'écrire, je devrais plutôt dire le fait de parler dans le poème, est voué à l'interpellation d'un doux, d'un poids. Cette orientation, ou au sens propre, cette vocation de celui qui parle, à celui ou à celle à qui il s'adresse, se déduit déjà de l'étonnante parabole de la forme du récit. Si ce petit texte, ce sont à peine 5 pages, relate l'entretien de 2 juifs, le juif Klein, petit, et le juif Gross, grand, et si cet entretien porte lui-même en partie sur le fait, ou du moins sur le besoin de parler, il se révélera à la fin que cette conversation est purement fictive, qu'ils ne se sont pas rencontrés, que tout le texte n'est que l'imagination d'un des 2 juifs, le juif Klein, qui, par un effet de dédoublement interne, s'est transformé à la fois en narrateur et en metteur en scène d'un entretien qu'en vérité il a mené tout seul. Les derniers mots du texte sont « Ich auf dem Weg hier zu mir, oben, moi, ici, sur ce chemin, vers moi-même, en haut. » Il s'agit donc, vous le voyez, de la mise en scène d'une rencontre de soi-même, ce que confirme du reste un passage du Méridien. Mais d'une rencontre de soi qui, voilà ce qu'il y a à comprendre, n'a pu se faire que par le biais d'une rencontre de l'autre. Aussi bien, le caractère fictif de l'entretien dévoile-t-il dialectiquement la nécessité qui le sous-tend. Le fait que le locuteur se représente parlant avec son cousin issu de Germain atteste à quel point il a besoin, seul comme il l'est réellement, de s'adresser à celui-ci. La forme de la fiction, monologue se déguisant en dialogue, confirme à sa manière son thème principal, la nature ou la vocation interlocutoire du langage. Eines Abends, die Sonne, und nicht nur sie, war untergegangen, da ging, trat aus seinem Häusel und ging der Jud und Sohn eines Juden. Und mit ihm ging sein Name, der Unaussprechliche, ging und kam, kam dahergezockelt, ließ sich hören. Un soir, que le soleil, et pas lui seulement, s'était couché, s'en fut, sorti de sa maisonnette, et s'en fut le juif est fils d'un juif, et avec lui allait son nom imprononçable, s'en fut et s'en vint en clopinant, se fit entendre. Comme Renate Böschenstein-Schäfer l'avait montré autrefois, le style de cet incipit, dont je n'ai lu que les premières lignes, est celui d'un conte, dont il reprend à la fois la syntaxe. Les membres de phrases ne sont pas liés par des effets de subordination, ils sont simplement juxtaposés. Les réduplications homonymiques, ainsi notamment des verbes, s'en fut, sorti, s'en fut, s'en va, ainsi que l'usage des diminutifs et des articles définis. Cette apparence de conte, bien réelle, est en même temps trompeuse. La position au soleil, un soir, que le soleil et pas lui seulement s'était couché, est potentiellement d'autant plus lourde de sens, de sous-entendu, que le verbe « va untergegangen », s'était couché, peut signifier également « sombrer », aller à sa ruine. Il en va de même du mot-clé « Jude ». « Jude », c'est le juif. Sauf que le mot allemand pour « juif » est « Jude », et que « Jude », c'est à la fois la transcription du yiddish et une abréviation antisémite pour le juif. Du coup, l'expression « Jud und Sohn eines Juden », le juif et fils d'un juif, fait-elle signe à la fois vers une généalogie et vers un redoublement insultant, comme si on disait « le youpin est fils d'un youpin ». C'est sans doute aussi au compte du caractère générique du conte qu'il faut porter la séparation entre le juif et son nom. Il en ira de même un peu plus bas quand il sera question de son nombre. Ging im Schatten, dem eigenen und dem Fremden, denn der Jud, du weißt's, was hat schon, das ihm auch wirklich gehört, das nicht geborgt wäre, ausgeliehen und nicht zurückgegeben. S'enfuit dans l'ombre, la sienne et l'étrangère, car le juif, tu le sais, qu'a-t-il qui lui appartienne en propre, qui ne soit prêté, emprunté et jamais restitué? Le juif est deux avec son ombre, comme deux avec son nom. Deux, avons-nous sans doute à comprendre, avec son identité propre et avec l'identité injurieuse que le monde lui attribue. Lui, qu'on faisait vivre dans le bas, où il appartient, dans les bas-fonds. Er, den man hatte wohnen lassen, unten, wo er hingehört, in den Niederungen. Or ce juif, qui s'en vient, Wilens, durchs Gebirg, qui s'en vient donc, comme la figure évoquée par le récit de Büchner, à travers la montagne, la forme Gebirg, pour la forme usuelle Gebirge, signale l'emprunt à Büchner, rencontre ce juif, rencontre un autre juif, son cousin, plus âgé que lui, d'un quart de vie de juif, devant lequel il fait taire son bâton. Voici la suite du récit. So schwieg auch der Stein, und es war still im Gebirg, wo sie gingen, der und jener. Still war's also, still dort oben im Gebirg. Nicht lange war's still, denn wenn der Jud daherkommt und begegnet einem Zweiten, dann ist's mal vorbei mit dem Schweigen, auch im Gebirg. Denn der Jud und die Natur, das ist zweierlei, immer noch, auch heute, auch hier. Da stehen sie also, die Geschwisterkinder, links blüht der Türkenbund, blüht wild, blüht wie nirgends, und rechts, da steht die Rapunzel und Dianthus superbus, die Prachtnelke steht nicht weit davon. Aber sie, die Geschwisterkinder, sie haben, Gott sei es geklagt, keine Augen. Genauer, sie haben auch sie Augen. Aber da hängt ein Schleier davor, nicht davor, nein, dahinter, ein beweglicher Schleier. Kaum tritt ein Bild ein, so bleibt's hängen im Geweb und schon ist ein Faden zur Stelle, der sich da spinnt, sich herumspinnt ums Bild. Ein Schleierfaden spinnt sich ums Bild herum und zeugt ein Kind mit ihm, halb Bild und halb Schleier. Ainsi se tut aussi la pierre, et le silence régna dans la montagne où ils allaient, lui et l'autre. Le silence régna alors, là-haut, dans la montagne, mais il ne régna pas longtemps, car lorsque s'en vient le juif et qu'il rencontre un autre juif, c'en est alors bientôt fait du silence, même en montagne, car le juif et la nature, cela fait d'eux, de tout temps, même aujourd'hui, même ici. Et voici donc les cousins germains, sur la gauche, fleurit le martagon, fleurie sauvage, fleurie comme nulle part, et sur la droite se dresse la campanule réponse, et Dianthus superbus, l'œillet splendide, se dresse, non loin de là. Mais eux, les cousins germains, ils n'ont, quand on blâme le Seigneur, pas Dieu. Ou plutôt, ils ont bien des yeux, eux aussi, mais devant leurs yeux est un voile, pas devant, non, derrière, un voile qui bouge, à peine une image entre telles qu'elle reste prise dans la trame et un fil est en place qui se tisse autour de l'image, un fil de voile se tisse autour de l'image et engendre avec elle un enfant, mi-image et mi-voile. Le rapport d'altérité affirmé des Juifs et de la nature va devenir la cause de leur volubilité. Cette altérité est fondée à la fois dans leur statut de Juif, cause historique, et dans la conformation de leur regard, cause ontologique. Regard dont l'accès à la réalité est déformé par la double médiation de l'image, d'une part, et surtout du voile, de ce voile qu'est le langage, sans doute, qui, comme l'a posé le poème qui a donné son titre au troisième recueil, Sprachgitter, s'interpose à la manière d'une grille de parole entre l'œil et ce qu'il perçoit. Les Juifs vont donc commencer leur dialogue du fait même de leur statut d'étranger à cette nature, dont la précision botanique du narrateur marquent dialectiquement combien elles en sont séparées. Et de fait, le premier objet de leur conversation va-t-il porter sur cette altérité ? Bist gekommen von weit? Bist gekommen hierher? Bin ich. Bin ich gekommen wie du? Weiß ich. Weißt du? Weißt du und siehst, es hat sich die Erde gefaltet hier oben, hat sich gefaltet einmal und zweimal und dreimal und hat sich aufgetan in der Mitte und in der Mitte steht ein Wasser und das Wasser ist grün und das Grüne ist weiß und das Weiße kommt noch weiter oben, kommt von den Gletschern. Man könnte, aber man soll's nicht sagen, das ist die Sprache, die hier gilt. Das Grüne mit dem Weißen drin, eine Sprache nicht für dich und nicht für mich. Denn, frage ich, für wen ist sie gedacht, die Erde? Nicht für dich, sage ich, ist sie gedacht und nicht für mich. Eine Sprache je nun, ohne ich und ohne du. Lauter er, lauter es, verstehst du, lauter sie und nichts als das. Je suis venu de loin, venu jusqu'ici, suis venu, oui, suis venu comme toi, je sais, tu sais. Tu sais et tu vois, la terre s'est pliée ici dans le haut, s'est pliée une fois et deux fois et trois fois et s'est ouverte au milieu et au milieu il y a de l'eau et l'eau est verte et le vert est blanc et le blanc vient de plus haut encore, vient des glaciers. On pourrait dire, mais on ne le doit pas, que c'est la langue qui prévaut ici, le vert avec le blanc au-dedans, une langue non pour toi et non pour moi. Car je le demande, pour qui donc est-elle conçue, la terre ? Pas pour toi, dis-je, n'est-elle conçue et pas pour moi ? Une langue de toujours, sans je et sans tu, purement lui, purement ça, comprends-tu, purement elle, et rien que cela. Ce qui me semble le plus révélateur dans cet échange, c'est que l'altérité entre le règne de la nature et celui des interlocuteurs est réfléchie comme différence de langue. La langue de la montagne est une langue ohne ich und ohne du, sans je et sans tu. À l'écart du couple pronominal fondateur, elle est pure tiercéité, pure illéité et surtout pure autonomie par rapport aux deux juifs. Ce vers avec du blanc au-dedans, cette langue à la troisième personne, à la mesure de l'anonymat des glaciers, est radicalement autre que la langue de l'échange, dans laquelle, au contraire, trouve son principe dans l'interlocution. La même pensée est répétée quelques lignes plus bas, lorsque l'un des Juifs confie à l'autre que, s'il est venu, c'est parce qu'il a, je cite, « senti le besoin de converser avec toi ou avec moi, converser avec ma bouche et ma langue, et pas seulement avec mon bâton ». Car avec qui converse-t-il le bâton ? Il converse avec la pierre. Et la pierre, avec qui donc converse-t-elle ? Et que son interlocuteur lui répond : avec qui, Germain, est-elle donc censée converser ? Elle ne converse pas, elle parle. Et qui parle, Germain ? Il ne converse avec personne. Il parle car personne ne l'entend. Personne et personne. Et elle dort, et alors, il dit, lui, et pas sa bouche, et pas sa langue, lui, et seulement lui. Entends-tu ? Parler, qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un être humain, c'est faire l'épreuve d'une solitude. Solitude par rapport aux autres, autant que par rapport à Dieu. Dans le syntagme, il parle, car personne ne l'entend, personne et personne. Le deuxième adverbe, personne, est pourvu de la majuscule, comme il l'est dans le poème Psalme, où il est une figure négative de Dieu. Mais en même temps, c'est révélé que cette solitude est habitée au plus profond par le besoin d'être entendu par un tu. Le besoin d'être entendu est d'autant plus vif que la réponse fait défaut. Hörst du, sagt er. Ich weiß, Geschwisterkind, ich weiß. Hörst du, sagt er. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin hier. Ich bin gekommen, gekommen mit dem Stock, ich und kein anderer, ich und nicht er, Ich mit meiner Stunde der Unverdienten, ich, den es getroffen hat, ich, den es nicht getroffen hat, ich mit dem Gedächtnis, ist ich der Gedächtnisschwache, ich, 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 sagt er, sagt er. Hörst du, sagt er, und hörst du gewiss, hörst du, der sagt nichts, der antwortet nicht, denn hörst du, das ist der mit den Gletschern, der, der sich gefaltet hat, dreimal und nicht für die Menschen, der Grün und Weiße dort, der mit dem Türkenbund, der mit der Rapunzel. Entends-tu, dit-il, je sais, Germain, je sais. Entends-tu, dit-il, je suis là, je suis là, je suis ici, je suis venu, venu avec mon bâton, moi et personne d'autre, moi et pas lui, moi avec mon heure imméritée, moi que cela a frappé, moi que cela n'a pas frappé, moi avec ma mémoire, moi le faible de mémoire, moi, 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 dit-il, dit-il. Entends-tu, dit-il. Et entends-tu, certes, entends-tu, il ne dit rien, il ne répond pas. Car entends-tu, c'est celui des glaciers, celui qui s'est plié trois fois, et pas pour les hommes. Le verre est blanc là-bas, celui du Martagon, celui de la campagne, une réponse. La substantivation de « entends-tu » comme celui qui ne répond pas creuse l'écart entre la parole humaine et l'impersonnalité de la nature ou d'un dieu. Surtout, elle montre dialectiquement à quel point le « ich » est voué au « doux », à quel point ce n'est qu'ensemble, à l'intérieur de la relation qui les pose ensemble de manière indissociable, qu'ils peuvent exister pour eux-mêmes ou en tant qu'eux-mêmes. Comme le dit Buber, « Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich du. » Il n'y a pas de « je » en soi, il n'y a de « je » que du couple fondamental, « je tu ». Cette orientation vers le toi, ou ce qu'on pourrait nommer cette vocation au couple pronominal, la fin du texte va la rendre encore plus sensible. En effet, après avoir apporté ce qui est, de manière très probable, un souvenir de la déportation dans le camp de travail en Moldavie, où Tselan fut prisonnier entre juillet 42 et février 44, le récit s'achève en révélant le subterfuge sur lequel il est construit. En voici les deux derniers alinéas. Und ich weiß, Geschwisterkind, ich weiß, ich bin dir begegnet hier. Und geredet haben wir viel. Und die Falten dort, du weißt, nicht für die Menschen sind sie da und nicht für uns, die wir hergingen und einander trafen. Wir unterm Stern, wir, die Juden, die da kamen wie Lenz durchs Gebirg. Du groß und ich klein, du der Geschwätzige und ich der Geschwätzige, wir mit den Stöcken, wir mit unseren Namen, den unaussprechlichen, wir mit unserem Schatten, dem eigenen und dem Fremden. Du hier und ich hier. Ich hier, ich. Ich, der ich dir all das sagen kann, sagen hätte können. Der ich dir's nicht sag und nicht gesagt habe, ich mit dem Türkenbund links, ich mit der Rapunzel, ich mit der heruntergebrannten der Kerze, ich mit dem Tag, ich mit den Tagen, ich hier und ich dort, ich begleitet vielleicht jetzt von der Liebe der Nichtsgeliebten, ich auf dem Weg hier zu mir. Oben. Je sais, Germain, je sais, je t'ai rencontré ici, et nous avons conversé longtemps, et les plis là-haut, ils ne sont pas pour les hommes, et pas pour nous, qui sommes venus, nous sommes rencontrés ici, sous l'étoile, nous, les Juifs, venus comme Lenz par la montagne, toi, grosse, et moi, Klein, toi, le bavard, et moi, le bavard, nous, avec nos bâtons, nous, avec nos noms, nos noms imprononçables, nous avec notre ombre propre et notre ombre d'emprunt, toi ici, moi ici, moi qui puis te dire tout ceci, qui aurais pu te le dire, qui ne te le dit pas et ne te l'ai pas dit, moi, avec le martagon sur la gauche, moi, avec la campanule réponse, moi, avec la bougie qui est brûlée, moi, avec le jour, moi, avec les jours, moi, ici et moi, là, moi, peut-être accompagné, désormais, de l'amour de ceux qui ne sont pas aimés, moi, sur le chemin qui mène à moi, dans le haut. La rencontre a été imaginaire. Klein n'a pas rencontré Gross, comme Zella n'a pas rencontré Adorno. Mais l'absence de la rencontre ne fait dialectiquement qu'intensifier la nécessité de celle-ci. Ce que le récit rapporte, c'est ce que Zella nomme une Selbstbegegnung, une rencontre de soi-même. Mais cette rencontre de soi qui permet au « ich », au « je », de dire qu'il est sur le chemin qui mène à lui, ne se fait, ne peut se faire que par le truchement de la rencontre du « toi ». Le « je » n'est « je » qu'à travers la parole qu'il adresse au « tu ». Si l'entretien dans la montagne illustre la profonde solitude de son auteur, elle ne rend pas moins sensible à quel point celui-ci éprouve combien la structure de sa propre identité dépend de sa manière d'être voué à l'autre. Et ce qui vaut pour le sujet, ou pour le poète, si vous préférez, vaut aussi pour son poème. Ainsi, dans le Méridien, Celan dira-t-il, je cite, que « le poème veut faire chemin vers un autre, il a besoin de cet autre, a besoin d'un vis-à-vis, il cherche celui-ci, il se promet à lui. Toute chose, toute personne est, au poème qui vise l'autre, une figure de cet autre. » Le « je », nous venons de le voir, est donc non seulement voué au « tu », mais dépendant de lui. Sauf qu'il reste à déterminer la nature de ce « tu ». Le « tu » n'est pas en effet le simple symétrique du « je ». Il possède une consistance, ou pour mieux dire, une altérité propre. Le Méridien poursuit en ces termes. Das Gedicht wird zum Gedicht eines Wahrnehmenden, dem Erscheinenden zugewandten, dieses Erscheinende Befragenden und Ansprechenden. Es wird Gespräch. Oft ist es ein verzweifeltes Gespräch. Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es sich um das es Ansprechende und Nennende Ich. Aber in diese Gegenwart bringt das Angesprochene und durch Nennung gleichsam zum Du gewordenen, auch gewordene, auch sein Anderssein mit. Le poème de quelqu'un qui perçoit, quelqu'un tourné vers ce qui apparaît, quelqu'un qui questionne et qui interpelle cette apparition. Il devient un entretien, souvent un entretien désespéré. Ce n'est que dans le cadre d'un tel entretien que ce qui est interpellé se constitue, qu'il se rassemble autour du jeu qui l'interpelle et qui le nomme. Mais ce qui est interpellé, ce qui est devenu comme le tu du jeu qui l'interpelle et qui le nomme, apporte aussi son altérité dans sa présence. Saisissons bien le renversement. L'interlocuteur du poème ne se constitue comme tel que par le fait d'être interpellé. Il n'existe autrement dit comme « tu » que par rapport au « je » qui le nomme. Mais le fait qu'il dépende pour son existence de l'adresse qui lui est faite ne l'empêche pas, dialectiquement, d'apporter son altérité propre dans la relation. À la différence de la vision buberienne, dans laquelle les deux membres du couple relationnel « je » « tu » sont simultanément donnés avec un statut identique et permutable, la vision tselanienne insiste sur l'altérité du « je » et du « tu », altérité donnée par l'autonomie de celui ou de celle que le poème interpelle et qu'il constitue en toi. Une telle différence, et nous voici revenus à notre point de départ, trouve tout son sens dans le cas où la personne interpellée est une personne défunte. En effet, dans ce cas, l'altérité de l'autre devient problématique. Que cette problématique se trouve dès lors thématisée de façon explicite n'étonne pas. un petit quatrain rimé du cinquième recueil, Atemwende, Tournant du souffle, en donne un bon exemple. Ich kenne dich, du bist die Tiefgebeugte, ich, der Durchbohrte, bin dir untertan. Wo flammt ein Wort, das für uns beide zeugte, du ganz, ganz wirklich, ich ganz wahr. Je te connais, toi qui es plié en deux, moi, le transpercé, te suis assujetti, où flambe une parole qui témoigne pour nous deux, toi, toute, toute réelle, moi, tout entier, folie. Aussi bien le syntagme liminaire, ich kenne dich, je te connais, que la structure du bist, ich bin dir, tu es, je te suis, ou encore que les deux hémistiches du vers 4, articulés sur le renversement du, ich, toi, moi, attestent à quel point le quatrain est fondé sur la polarité pronominale du je et du tu. Si le quatrain s'origine dans la reconnaissance du je, son déroulement tend à l'inverse à poser la supériorité de la femme interpellée. Le voûtement de celle-ci est tel que le je se découvre devant elle untertan, assujetti, soumis, et cela en dépit du fait qu'il est der Durchbohrte, celui qui est transpercé. On comprend, à relier ce poème à ceux du premier recueil, que cette soumission défère à une hiérarchie non de force, mais de douleur. De même que la seule chevelure de la femme aimée était plus lourde que le poète tout entier, de même ici la figure ressurgie de cette femme domine-t-elle celui qui la reconnaît. La mort lui a donné une puissance dont le poète ne dispose pas. Du coup, le poème devient-il le lieu, ou plutôt le lieu de la recherche d'un lieu qui réunisse les partenaires, qui les réunisse sous l'égide d'un témoignage commun, comprenant sous l'égide d'une instance qui atteste leur égalité devant la souffrance. Ce lieu est un lieu de parole. « Wo flammt ein Wort » ou « flambe », ou si vous préférez, « ou flamboie une parole ». Ce lieu, fût-ce sur le mode d'une question sans réponse, est le poème. Le poème écrit avec les mots de celui qui n'aura survécu que « durchbohrt », que transpercé, peut constituer cette égide. Mais ce n'est qu'au prix d'un renversement. De même, en effet, que la douleur donnait son poids à la chevelure, de même la mort de la femme lui assure-t-elle cette réalité qui devient paradoxalement indépassable, tout en déréalisant, ou du moins en réduisant à l'état de vanne, de délire ou de folie, celui qui se tient en face d'elle. L'altérité de la morte ne subsiste, autrement dit, qu'à identifier la réalité de sa mort avec la réalité tout court. En retour, toutefois, cette identification frappe d'irréalité ou d'inanité celui qui procède à la reconnaissance et qui écrit le poème. Rapproché par la magie de la rime, autant que de la structure syntaxique, le « je » et le « tu » trouvent dans la connaissance assurée par ces quatre vers un lieu partagé. Ce lieu est toutefois précaire. Vous aurez peut-être été attentif à une particularité graphique dont je ne connais pas d'autre exemple dans la poésie de Celan. C'est que le quatrain, qui constitue pourtant un poème autonome, est placé entre parenthèses. Il y a de nombreux poèmes dont un vers ou quelques vers, voire une strophe entière, sont placés entre parenthèses. Celles-ci y désignent souvent un moment de réflexion, de retour sur soi du lyre poétique. Il me semble qu'ici, par contre, la parenthèse dévoile le caractère à la fois intime, confidentiel et incertain du dialogue. Incertitude née du doute que le poète est amené à éprouver sur sa propre réalité, ou si vous préférez, sur son propre poids de souffrance. Si assuré que Celan puisse paraître quand il se fait le poète de la contre-parole, si anxieux de réalité paraît-il à d'autres moments, notamment quand son poème évoque un interlocuteur féminin. J'emploie à dessein cette expression d'interlocuteur féminin avec ce qu'elle a d'indéterminé, de manière à ne pas réduire le rôle du doux à la seule figure de la mère ou de la juive morte. Car un tel doux peut parfaitement être vivant. On en verra pour preuve le quatrième poème de Atemwende. In den Flüssen, nördlich der Zukunft, werf ich das Netz aus, das du zögernd beschwerst mit von Steinen geschriebenen Schatten. Dans les fleuves au nord de l'avenir, je déploie le filet que tu alourdis, hésitante, d'ombres écrites en pierre. Ce poème appartient au premier cycle du recueil Atemwende, 1967, cycle composé de 21 poèmes qui parut dès 1965 dans un tirage séparé et en édition de luxe accompagné de 8 gravures de Gisèle Celan-Lestrange sous le titre de Atemkristall, Cristal du souffle. Comme plusieurs autres poèmes de ce cycle, il est passible d'une lecture réflexive. Le filet que le jeu lyrique jette dans les fleuves situés au nord de l'avenir est, peut-on penser, son filet de poète. Le bateau ivre que Celan traduisit descendait lui aussi des fleuves, impassibles. L'étrangeté de cette localisation se résout peut-être quand on s'avise que l'acte de l'écriture est un acte créateur d'avenir, puisque le poème doit créer la réalité dans laquelle le poète puisse vivre, et que le nord est la contrée où mourut Mandelstam, le frère d'élection. Au nord de l'avenir serait donc une désignation oxymorique, conjoignant le passé funeste d'une contrée mémorielle, la Sibérie, avec l'essence du geste poétique. Le filet du poète est jeté au point où l'avenir se conjoint au passé. Il est lesté, il est alourdi par les ombres écrites à l'aide de pierres du doux. Je fais l'hypothèse que ces pierres écrites sont des pierres lithographiques travaillées par Gisèle, et qui, venant se marier au poème de ce cycle, le compose avec lui, à l'aide de ses ombres, qui sans doute rappellent celles des morts. Quelle que soit la pertinence de cette hypothèse, ce qu'il faut remarquer est que c'est le travail précautionneux, hésitant, zögernd, du tu qui leste le filet du poète, qui le rend opératoire dans les fleuves où il pêche. La création poétique se réfléchit comme une collaboration où la partenaire vient en quelque sorte assurer sa réalité à celui qu'elle illustre de ses créations picturales. Comme si, en d'autres termes, c'était le doux qui donna sa vérité au jeu, comme s'il dépendait d'elle pour trouver cette vérité. Le phénomène n'est pas nouveau. Déjà dans « Mon und Gedächtnis », un poème intitulé « Auf hoher See », en haute mer, parlait d'un monde, je cite, « Wo jedes du » ein Ast ist, an dem ich hänge, als ein Blatt, das schweigt und schwebt, où chaque tu est une branche à laquelle je pends comme une feuille qui se tait et qui plane. Ainsi donc s'établit une sorte, sinon de dialectique, du moins de polarité réversible. Tantôt, le tu doit son existence, ou de façon plus exacte, sa survie au jeu qui le convoque dans son poème. Tantôt, au contraire, c'est lui qui confère à ce jeu sa réalité. S'originant dans l'appel adressé au fils par sa mère, comme nous l'avons vu à propos de Schwarze Flocken, le poème commémore cette mère, souvent désignée de la Niemandsrose sous le nom de sœur, mais reçoit en échange la charge de réalité de celle-ci, qui, du coup, devient la clé lui ouvrant le monde. Et ce qui vaut pour la mère vaut aussi pour les figures d'amoureuses qui lui succèdent. Nous venons de le voir à propos d'un poème dans lequel c'est peut-être Gisèle qui leste son filet. On le voit encore dans l'admirable deuxième cycle du recueil Zeitgehöft, Enclos du temps, qui contient ses derniers poèmes, et notamment ceux écrits pendant ou après sa visite en Israël, à l'automne de 1969, quelques mois avant sa mort, en compagnie d'Ilana Shmouli, sa compatriote de Tchernovitch, qui fut son dernier amour. Ce qu'il y a de si profondément émouvant dans ces poèmes, c'est que la relation amoureuse qu'il révèle opère à la manière d'un don réciproque, où chacun se fait pour l'autre la porte ou la fenêtre d'accès à la réalité qui les entoure. Es stand der Feigensplitter auf deiner Lippe. Es stand Jerusalem uns. Es stand der Hellkiefernduft überm Dänenschiff, dem wir dankten. Ich stand in dir. L'éclat de figue se tenait sur tes lèvres. Jérusalem se tenait autour de nous. Le parfum des pins clairs se tenait au-dessus du bateau danois que nous remerciâmes. Je me tenais en toi. Le bateau danois auquel il est fait allusion est la réplique située sur la Kikar Dania, la place du Danemark à Jérusalem, des bateaux sur lesquels les Danois sauvèrent en 1943 la vie de nombreux juifs en les faisant passer en Suède. Comme vous le voyez, ce poème très simple est articulé sur la reprise anaphorique du Es stand, prétérit du verbe stehen, se tenir debout, qui, chez Tselan, est très souvent associé à un acte de résistance. Rappelez-vous la fin de Eine Gaune und Ganovenweise, où l'arbre steht gegen die Pest, que j'ai commenté la semaine dernière. Les trois premiers groupes de vers débutent tous par ce syntagme, auxquels répondent les fragments de réalité que sa mémoire, le poème est écrit une semaine après son retour en France, détache du plein de l'expérience en leur accordant valeur de témoin. L'éclat de figue resté sur les lèvres d'Ilana, la ville de Jérusalem, le mémorial de Denmark Square. Du corps de la femme aimée à Jérusalem, de Jérusalem au symbole embaumé de parfum d'un acte de solidarité, le poème progresse pour aboutir enfin au « ich » de sa dernière strophe. « Ich stand in dir. Es stand, es stand, es stand, ich stand. » Le parcours est celui d'une union dans laquelle se fonde un échange, par la grâce duquel le « tu » devient, si l'on peut dire, le prolongement de Jérusalem, où l'accueil de la femme devient le symbole d'un méridien qui, reliant le temps de leur origine au temps présent, comme la capitale de la Bucovine et la capitale spirituelle d'Israël, les unit dans une communauté ayant valeur à la fois de refuge et de défi. Du « auf deiner Lippe » sur ta lèvre, au « in dir » en toi, le poème dessine une boucle qui est aussi une boucle pronominale fondatrice du « via », du « nous » enfin rejoint. Ce poème est comme une exception heureuse, qui n'a pu être toutefois qu'après que son auteur eut regagné Paris, après avoir écourté son séjour, comme si seule la distance d'avec Ilana et d'avec cette Jérusalem devenue la correspondante de Tchernovitch pût permettre à la réalité, comme à la poésie, d'advenir. Jean Bollack, dans « Poésie contre poésie », Paul Celan et la littérature, 2001, a beaucoup insisté, et avec raison, sur le fait que la polarité dialogique chez Celan recoupait fort souvent un dialogue intérieur, dialogue mené par le sujet empirique, ou celui qu'il nomme le sujet historique, avec le sujet dans la langue, ou plus précisément, avec le sujet poétique dans la langue. Je ne reprendrai pas ici sa démonstration, qui est parfaitement détaillée, sinon pour préciser que ce dialogue est soumis lui aussi à la réversibilité que nous venons d'étudier dans le rapport à autrui. Bien loin que le jeu poétique se fasse, comme le croirait une saisie naïve de l'acte créateur, le porte-parole ou le transmetteur du jeu empirique, Celan a signifié à plusieurs reprises comment, dans sa conception, c'était, ou plutôt ce pouvait être, le poème qui précéda le poète sur les chemins de l'existence. Ce que le méridien définit comme « Geheimnis der Begegnung », le mystère de la rencontre, dans lequel il voit la finalité de l'acte d'écrire, se découvre aussi bien comme rencontre de soi, ou mieux encore, comme acheminement vers soi. Écoutons le méridien. Geht man also, wenn man an Gedichte denkt, geht man mit Gedichten solche Wege? Sind diese Wege nur Umwege, Umwege von dir zu dir? Aber es sind ja zugleich auch unter wie vielen anderen Wegen, Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird. Es sind Begegnungen, Wege einer Stimme zu einem wahrnehmenden Du, kreatürliche Wege, Daseinsentwürfe vielleicht, ein sich vorausschicken zu sich selbst, auf der Suche nach sich selbst, eine Art Heimkehr. Va-t-on donc, quand on pense à des poèmes, va-t-on avec des poèmes de tel chemin? Ces chemins ne sont-ils que des détours? Ici, c'est là, on joue sur le fait qu'en allemand, chemin se dit Weg et détour se dit Umweg. Des détours de toi à toi. Mais ils sont aussi, entre autres chemins, des chemins sur lesquels la langue prend corps et se fait entendre. Ils sont des rencontres, chemin d'une voix vers un toi qui l'entend, chemin d'une créature, des esquisses de vie, peut-être, une manière de se précéder soi-même sur la voie d'une quête de soi, une sorte de retour. Ein sich vorausschicken zu sich selbst, une manière de se précéder soi-même. Écrit, comme il le dit ailleurs, à partir de l'angle d'inclinaison propre de l'existence de son auteur, le poème est paradoxalement ce qui indique à celui-ci la voie sur laquelle il pourra faire la rencontre de lui-même. Le poème anticipe l'existence, au sens où les mots du poème sont porteurs en puissance d'un destin. Schicksal mitführende Geschenke, ainsi qu'il l'écrit un correspondant. Comprenons, sont des mots qui engagent celui qui les écrit, en lui frayant, sans qu'il le sache a priori, le chemin sur lequel il lui restera à s'avancer. Comme il le formule en français dans ce même méridien, la poésie, elle aussi, brûle nos étapes. Reste encore ces étapes à vouloir les franchir et donc à assumer la cesse d'un tel chemin. Nous verrons vendredi prochain en quoi cette assaise doit consister. Merci.